comprends pas ce que font les jeunes metteurs en scène. Je ne les comprends plus. Je ne comprends pas leur façon de faire. Je ne comprends rien. Parfois, ils me sollicitent et je réponds non. Je ne veux pas travailler avec toi car je ne comprends rien à ce que tu fais. Non, j'ai vu une fois un spectacle de toi et je l'ai détesté. Ah ben, voilà comment je leur parle. Il faut dire les choses. Moi, je leur parle comme ça maintenant. Comme ma mère. Ma mère disait, dans les magasins, en pleine face du vendeur, je vous ai acheté ça hier et regardez-moi ça comme ça rétrécit. Ben, je leur dis la même chose. J'ai acheté du désir là en venant voir ton Shakespeare pourri, là où ce que tu voudras. Et tu me l'as rétréci en le mettant sur le théâtre. Tu n'y connais rien et tu parles. Tu ne cherches qu'à reproduire. Tu ne cherches qu'à imiter comme un petit chien ce qu'ont fait tes maîtres. Ce que tu fais à 30 ans, même tes maîtres ne le faisaient pas. Ce que tu fais aujourd'hui à ton âge est plus rance que ce que faisaient tes maîtres avec 30 ans de plus que toi. Et que feras-tu à leur âge? Qu'est-ce qui vient après le moisi académique? Qu'est-ce qui vient après le rance français?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est ce que l'on appelle une mise en abîme. Sur une vraie scène de théâtre et devant un vrai public, un acteur interprète, un acteur qui soliloque sur son métier, réfléchissant à haute voix en s'adressant à son chien. L'acteur, celui que nous voyons, dit un texte écrit par un dramaturge qui est aussi, nous le savons, acteur et metteur en scène. Et cet acteur, celui que nous entendons, est également metteur en scène. Ces paroles, alors, nous les recevons à plusieurs niveaux. D'abord comme une critique dure et drôle des travers du théâtre contemporain, puis comme une réflexion grave et acerbe sur les tics et les trucs de ceux qui le font. Enfin, comme une déclaration d'amour fou à la parole juste et vraie, sa puissance et son pouvoir. Pascal Rambert, auteur prolifique, aime écrire sur mesure pour des interprètes qu'il admire, des monologues incandescents, dépourvus de ponctuation, qui mobilisent autant l'énergie du corps que la précision de la parole. L'art du théâtre, écrit en 2005, est suivi sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris par « De mes propres mains », écrit en 1993, un texte halluciné, proféré d'un seul souffle par un homme au bout du rouleau, qui sombre devant nous dans la folie. Les mots de Rambert, dits par Arthur Noziciel, nous bousculent, nous coupent le souffle et nous laissent, à la fin du spectacle, traverser d'émotions et de pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Mais n'est-ce pas précisément cela, l'art du théâtre ? Bonsoir Arthur Noziciel.
Bonsoir.
Alors on vous voit enchaîner sur la scène du théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 mars, deux monologues, pas simples du tout. Le premier parce que vous jouez avec un chien et le deuxième parce que, comme vous le dites, vous débitez ce texte comme si vous conduisiez à 150 à l'heure sur des petites routes de montagne. J'allais dire, c'est presque, il faut avoir un moral de sportif en plus d'un mental d'acier.
Oui.
Bon, absolument. Passons à autre chose.
et puis faire un peu de sport pour élargir sa capacité pulmonaire, en tout cas pour de mes propres mains.
C'est la deuxième fois que vous le jouez. Donc, est-ce que la mémoire se souvient ?
La mémoire, elle peut revenir. Mais en fait, sur un texte comme ça, c'est pas juste une question de mémoire, c'est une question d'énergie profondément. Une question d'énergie, une question de tension. Et là, la difficulté, en fait, quand Pascal m'a dit « Oh, ce serait formidable d'enchaîner les deux », alors je ne me rendais absolument pas compte de ce que ça pouvait vouloir dire. Moi, un peu innocemment, j'ai dit « Bah, si tu veux, oui, super ». Et en plus de le jouer presque un mois, enfin, quand on avait fait une série de 8 représentations, j'étais vraiment juste vermoulu à la fin, même physiquement, enfin, physiquement courbattu, comme si on m'avait roulé dessus après les quelques représentations que j'avais faites où il n'y avait que des propres mains. Et donc, voilà, 5 semaines de mes propres mains plus l'art du théâtre avant, je mesurais pas du tout la force physique, mais finalement, vous avez raison, aussi davantage la force mentale qu'il faut avoir pour résister à tout ce qui peut nous polluer, nous encombrer toute la journée, pour nous permettre d'être le plus pointu et le plus aigu, mais comme il est dit dans le texte, hein, pour être tout entier dans l'art du théâtre et à pas se laisser complètement contaminer parce que mes autres activités par ailleurs nécessitent, parce que je dirige un théâtre, j'ai une mise en scène en tournée, enfin donc voilà, c'est comment en fait on mobilise ses forces et comment on revient à son centre de gravité pour pouvoir faire cette traversée dont la difficulté, elle est pour moi davantage maintenant d'enchaîner, c'est-à-dire quand je jouais de mes propres mains, uniquement de mes propres mains, j'étais en place en fait pendant une vingtaine de minutes pendant que le public rentrait. Et j'avais quelque chose, j'avais le temps de faire monter quelque chose et de me nourrir de ces bruissements, de sentir les gens arriver, des portables qui s'allument, s'éteignent, les gens qui parlent devant vous comme vous étiez invisible en fait. J'entendais des choses assez étonnantes d'ailleurs, parce que les gens comprennent pas qu'en fait vous les entendez, donc ils commentaient quelque chose sur moi, enfin c'était très bizarre. Et là en revanche, j'enchaîne deux textes qui nécessitent pas du tout la même attention, la même concentration, la même énergie. Ce sont deux langues différentes, ce sont deux adresses différentes. Et donc la difficulté, elle est vraiment, parce que j'enchaîne, j'ai à peine une minute entre les deux, de passer de l'état quasiment de vacances que nécessite le premier, et de calme aussi, parce que le chien avec lequel je joue, ou qui joue avec moi, je sais pas dans quel sens ça se passe, mon partenaire chien, ne peut pas sentir mon anxiété. Donc, moi qui suis plutôt tracker, là, ça m'oblige vraiment à apaiser quelque chose pour rassurer le chien. Et donc, c'est passé de ce calme et de cette disponibilité, presque et d'un certain sens de l'humour qui est nécessaire, en fait, pour accepter que le chien, à des moments, fasse des trucs totalement imprévus avec lesquels je dois composer, doit se transformer très, très rapidement en cette espèce de bombe nucléaire qui est de mes propres mains. Donc, ce que je découvre et ce que j'apprends en le faisant là, c'est de passer de l'un à l'autre dans ce temps très court qui m'est imparti.
Mais est-ce qu'au fond, le seul carburant possible pour cette performance sportive d'acteur, est-ce que ce n'est pas le désir de l'auteur, le désir de Pascal Rambert pour vous? Et pour ces mots, parce qu'on sait que Pascal Rambert, il n'écrit pas au hasard, il ne fait pas du théâtre de boulevard. Chaque mot est pesé, est voulu à cet endroit-là, cette absence de ponctuation, ce que ça donne dans le souffle. Et d'ailleurs, vous en parlez dans l'art du théâtre, Arthur Nosiciel, en le disant, ce texte. Mais est-ce que pour vous, c'est ça? C'est répondre pour un acteur au désir de l'auteur? Est-ce que c'est pas l'élément essentiel?
Absolument. Parce que, et derrière ça, en plus, il y a la joie. En fait, parce que c'est magnifique quand même un auteur qui décide à un moment que vous pouvez être un interprète possible ou idéal à un moment de son écriture ou pour rendre compte d'une forme d'écriture. Et on est plusieurs dans ce cas. Marina Hans, Audrey Bonnet, Stanislas Nordet, Denis Podalydès, Laurent Poitronneau, Marie-Sophie Ferdan. Et en fait, on est comme peut-être les instruments différents d'un orchestre. À nous tous avec et à nous toutes avec tous ces textes qu'on prend en charge les uns et les autres, on rend compte d'un univers et d'une langue, la sienne. Le fait que ça soit comme ça fait qu'on y a déjà de la joie et c'est important pour affronter des blocs comme ça. Et puis il y a effectivement, je crois, une forme de, en tout cas en ce qui me concerne, moi qui suis metteur en scène aussi, le plaisir de m'en remettre complètement au regard de quelqu'un, et donc dans cet abandon, dans cette confiance, se laisser traverser en fait par quelque chose qu'on maîtrise moins, ou en tout cas de faire confiance à ce regard, et en amont faire confiance à cette main qui a écrit ces mots, et se laisser traverser complètement sans se poser de questions en fait. Donc tout ça, ça libère de quelque chose et ça laisse plus d'espace, plus de place à l'essentiel, qui est de les porter et de les transmettre, de les faire entendre. Et après, moi, comme acteur, j'ai toujours été plus animé par les mots et les langues que par l'idée du personnage. C'est-à-dire que construire ou la psychologie d'un personnage m'intéresse pas du tout. En revanche, faire entendre une écriture, faire entendre des mots, être le passeur entre un auteur et des spectateurs, je pense que c'est là que ça se passe, le métier d'acteur. Et s'il y a une forme de nécessité, elle est comme vous l'avez exprimé, c'est ce désir de faire entendre une écriture dont on pense qu'elle a une force, une importance, une nécessité, ou qu'elle répond voilà, de quelque chose de très essentiel. Et l'endroit aussi, avec le parallèle que je peux faire en le jouant, c'est que de même que ma nécessité d'acteur, elle est d'avoir une langue pour faire entendre quelque chose, ben c'est aussi la situation du personnage, c'est-à-dire, dans le fond, cet homme a les mots, et tant qu'il a les mots, les bruits dans sa tête, et qu'il arrive à les énoncer, il arrive encore à tenir debout et à rester vivant. Et on comprend que un acteur qui a plus les mots, ou si je perds la phrase en le jouant, En fait, tout s'arrête comme tout s'arrêterait pour le personnage. Donc, il y a aussi une métaphore de l'acteur à travers ça. Mais en tout cas, je peux faire ce parallèle.
Et puis, surtout, dans le premier texte, l'art du théâtre bien nommé, Arthur Nosiciel, Pascal Rambert, au fond, vous fait dire des choses que vous devez sûrement penser.
Les acteurs en France récitent la messe. Les acteurs sont à la messe en France quand ils jouent au théâtre. J'ai joué, tu peux rire, à Moscou, à Londres, Varsovie, Milan, Ulan-Bator, Kuala Lumpur, tu peux rigoler si ça t'amuse, ouais, sur l'île d'Ischia, Sydney, Reykjavik, New York, Dallas, Berlin, Mons. Il n'y a qu'en France que j'ai entendu ce ton. Il y a un ton français de messe atroce, un ton français qui se perpétue, je ne sais pas comment, un ton que les jeunes générations intègrent, je ne sais pas comment, un ton de messe. Quelque chose qui a à voir avec, un horrible ton de trémolo contemporain de messe, une façon de dire « je respecte le texte, tout texte est respecté par moi hein ». Je suis issu du texte, je vais vers le texte, tu peux rigoler. Tout chien hurlerait à la mort s'il intégrait dans ses oreilles ce ton français théâtral de messe. Tout chien Terre-Neuve voudrait mordre au sang la peau de ces jeunes filles qui ressentent le texte, en sont constituées. Moi, je ne suis constitué de rien d'autre que du présent, comme toi.
Arthur Nosiciel, le souffle qu'on entend, c'est celui d'Elboy, ce chien Terre-Neuve qui a très chaud et qui joue avec vous. C'est le mot, jouer de toutes les façons possibles sur cette scène. Mais quand on vous entend, on entend la jubilation aussi dans ces mots de Pascal Rambert. On entend quelque chose que vous devez penser comme lui sur le théâtre. Vous qui avez, comme Pascal Rambert, travaillé avec des acteurs étrangers sur des scènes étrangères. Est-ce que vraiment, en France... ce mot de « les acteurs disent la messe », est-ce que ça exprime quand même quelque chose que vous ressentez vous aussi ?
Oh, ça a dû sûrement exprimer une certaine tendance à un moment, et peut-être encore. Moi, ça me fait doublement rire, parce qu'en fait, moi, je suis obsessionnel du texte. C'est-à-dire que sur les répétitions de mes spectacles, on doit passer les deux tiers du temps à la table à être dans le texte. Donc moi, je défends le contraire, c'est-à-dire c'est comment, comme acteur, on est construit par le texte. Comment
Pascal
on se construit
Rambert
par ce qu'on
aussi
s'énonce.
Le pense.
Absolument.
Lui qui tient tellement à l'exactitude dans, quand on rend le texte.
C'est ça. Mais je pense qu'il faisait allusion aussi à un moment où on était dans un pseudo-lyrisme théâtral, d'une sorte de sacré, de l'épique, d'une image du poète, etc. Voilà, qu'on a pu entendre ou revendiquer à un moment. Je pense que c'est plus là. Après, c'est sûr que dans le texte, il y a des moments, enfin, tout me fait assez rire en réalité, mais il y a des choses avec lesquelles moi, je peux être d'accord, et puis d'autres finalement où je le suis moins. Mais ce qui m'intéresse dedans aussi, c'est la mauvaise foi, c'est et au-delà aussi, ce qui me touche, c'est quelqu'un quand même qui, en reprenant comme ça un peu tous les fondamentaux d'éthique des acteurs ou des théâtreux, comme on pourrait le dire avec des guillemets, parle quand même aussi du temps passé à faire ça. Et c'est ça qui me touche, c'est-à-dire c'est quoi cette vie finalement assez immatérielle des gens qui font du théâtre. Antoine Vitesse disait un acteur est un poète qui écrit sur du sable. C'est-à-dire qu'un acteur ou un metteur en scène dans le fond, parce qu'il reste très très peu de choses des spectacles qu'on a créés, quelque chose persiste dans le souvenir de ceux et de celles qui les ont vus. Or, c'est quoi cette vie, en fait, qui échappe à toute matérialité quand il dit à un moment, moi j'aurais passé ma vie, j'ai englouti ma vie dans un temps ajouté. Ce temps qui est le temps du théâtre, le temps du jeu, le temps de la mise en scène, c'est du temps qui est presque une abstraction. C'est du temps qu'on vit dans l'imaginaire, qu'on vit sur les plateaux, qu'on rajoute à la vraie vie. Jusqu'à un moment où, à nos âges, je dirais avec Pascal, on est plus ou moins de la même génération, le temps passé à rêver et à jouer et à mettre en scène, le temps de la fiction devient presque plus important que le temps vécu.
Et d'ailleurs, au bout de ce monologue qui mêle effectivement la mauvaise foi, l'énervement, il y a des moments plus graves où là, quelque chose se dit aussi de cette peur qui anime souvent les acteurs, cette peur de l'abandon.
Ne lâche sur rien. Jamais. N'écoute personne. N'écoute pas ceux qui te disent « garde une poire pour la soif ». La soif, c'est l'art du théâtre. Ris-leur au nez. Dis-leur « j'ai choisi l'art du théâtre pour m'occuper de ce que c'est que être ». Et laisse-les commenter, laisse-les à leurs commentaires. Toi, tu agis, tu t'occupes de ce que c'est que être. Assis, Tu t'occupes pas de qu'est-ce que c'est que jouer. Tu t'occupes pas des questions absurdes sur le personnage. Tu t'occupes pas des commentaires. Tu t'occupes pas des indications assommantes de ceux qui ont un avis sur tout. Écoute, regarde, réponds. C'est tout. Ton seul partenaire, c'est le présent, rien d'autre. Et tant pis si les autres sont à la traîne. Veux-tu être un acteur habituel ? Veux-tu être... Ce qu'il y a de pire chez un acteur, la capacité à exister sur un plateau hors des mots. Veux-tu être cette vieille chose ? Veux-tu être cette vieille chose-là ? Ne lâche sur rien jamais. Tiens tête. Tourne le dos à toute cette école atroce. Tourne le dos. Construis ton pays, invente ton drapeau, ouvre la route. Tourne le dos à tous les commentateurs qui, dans leurs ridicules interviews, commenceront immanquablement par « N'avez-vous pas peur ?» quand répond « Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai jamais eu peur. Je monte sur le théâtre, donc je n'ai pas peur. La peur ne fait pas partie de mon monde. J'ai traversé l'enfer avant et aujourd'hui, je brûle encore de ce que j'ai traversé. Ce feu-là, je le dépose à vos pieds sur le théâtre. »
Arthur Nosiciel, cette peur dont Pascal Rambert parle dans cette partie-là de l'art du théâtre, au fond, c'est une peur que beaucoup d'acteurs partagent, cette peur de ne plus correspondre, de ne plus vivre dans le présent, mais de vivre dans le passé, cette peur de ne plus être aimé, cette peur de l'abandon. Vous, j'ai lu dans une de vos interviews que vous dites qu'en fait, c'est le théâtre justement qui vous a guéri de votre peur.
Oui, probablement, et je dirais... Alors, de manière plus ou moins consciente avant, c'est-à-dire le fait de... Moi, j'ai d'abord été acteur pendant une dizaine d'années, je suis venu à la mise en scène tard. Et petit à petit, oui, j'ai eu de moins en moins peur, peut-être dans la vie, parce que le théâtre, l'espace du théâtre, pas seulement le plateau, mais tout le bâtiment du théâtre, le fait de faire du théâtre, j'étais acteur, mais j'aurais pu faire d'autres choses, peut-être, était un endroit qui me faisait un peu échapper au monde, certes, mais en même temps qui m'aidait à le comprendre mieux. Ou à l'appréhender mieux, ou en tout cas, après le fait de jouer, mais je dirais plus le fait de mettre en scène, m'a permis, en travaillant sur des textes, en les rendant, en les ramenant à la vie, comme ça, avec des acteurs, des actrices, peut-être de mieux appréhender ce qui pouvait m'angoisser, m'inquiéter. Et quelque chose s'est passé surtout autour d'un spectacle qui s'appelait Yann Karski, dont j'assumais... pour des raisons dramaturgiques et pas du tout par un désir d'acteur, hein, mais pour des raisons de sens, en fait, dont j'assumais une première partie. Et je pense pas pouvoir avoir plus peur que la première à Avignon, qui était la création du spectacle.
En 2011.
En 2011, ouais, merci. Qui était un spectacle attendu et pas forcément avec bienveillance.
Il y avait eu de grosses polémiques à cause de Claude Lanzmann avant.
C'est
qui
ça.
Avait attaqué Yannick Enel sur le fait qu'il pouvait porter la parole de Yann Karski, ce résistant polonais qui racontait, qui était le seul à être entré et sorti d'un camp de concentration et qui racontait sans être entendu. Et c'était vous qui disiez ce texte.
Je me faisais l'écho du témoignage de Karski dans le film de Claude Lanzmann, Shoah. Et on savait qu'on partait pour un spectacle de 3 heures avec une forme qui était aussi assez inédite. C'était l'ouverture du Festival d'Avignon. Il y avait déjà une polémique même avant que le spectacle ne soit créé. Donc d'assumer cette place en fait, d'être devant 800, 900 personnes, toute la presse, mais aussi ma famille, voilà, dont c'est aussi l'histoire, et d'être là, à cet endroit-là, et de devoir dire ça et assumer ce spectacle a été une chose d'une grande violence, en fait. Et après, je me suis toujours dit, je pourrais plus jamais avoir peur comme ça.
Est-ce que là, justement, ce qui me sauve, Arthur Nosiciel, quand on prend de tels risques sur des spectacles aussi importants que celui que vous avez fait autour de Yann Karski, est-ce que, justement, le critère qui fait que ce spectacle reste à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vu, dont je fais partie, c'est la justesse? Enfin, ce que Pascal Rambert cherche aussi dans ses textes, c'est-à-dire la vérité. La moindre virgule mal placée, le moindre adjectif en trop, la moindre intonation trop joueuse de théâtre, ça aurait tué le spectacle. Et c'est justement cette recherche de vérité qui est intéressante dans le travail du metteur en scène et de l'acteur.
Alors, il y a la vérité, il y a la précision, il y a la rigueur, et en fait tout ça a à voir avec la responsabilité, avec une certaine forme de gravité en fait. C'est-à-dire de prendre très à cœur ce qu'on fait, de prendre très à cœur... le rapport à la langue, puisque on parle un peu de ça, enfin moi me semble être un enjeu fondamental aujourd'hui aussi, où en dehors même du théâtre, on entend que comment le vocabulaire s'appauvrit, comment les gens trouvent de moins en moins le mot juste pour nommer un sentiment, et ce qui ne peut produire que de la violence, que de l'agressivité, que du malentendu.
La dévalorisation du langage politique, elle est liée au fait que les mots ne recouvrent plus la réalité de ceux qui la vivent.
Il y a ça, il y a les 140 caractères pour faire passer un message. Des fois, c'est bien de pouvoir concentrer une pensée, mais c'est pas toujours le cas et tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc on a surtout de la réduction, on a surtout de la quelque chose qui s'appauvrit plus que quelque chose qui s'affine. Et ça devient de plus en plus difficile d'aborder la complexité du monde, la complexité des êtres, la complexité des relations. Et ça devient de plus en plus difficile de s'entendre et de se parler, puisqu'on met de moins en moins le même sens derrière les mêmes mots. Donc c'est quelque chose qui se dévide là, et je crois qu'un des enjeux du théâtre, en tout cas quelque chose qui continue dans, ou qui devrait en tout cas en assurer la pérennité, c'est cette capacité qu'ont certains grands auteurs d'arriver dans une phrase et avec quelques mots à rendre compte de manière si juste, si vraie, quelque chose que nous-mêmes on peut ressentir parfois, mais que on a du mal à exprimer tout simplement, et que on vient mettre des mots sur les douleurs, les souffrances ou les aspirations des autres.
Do you remember when this number first come out, man?
Yeah, I was a little boy, you were an old man.
The old master used to do this number. Old man Roosevelt sang. He the first one I heard gassing off with this number. In the evening when the sun go down. Yeah. And I used to be crazy about that number, you know. I used to have a gal in my arm, you know. A bottle of corn liquor on my lap.
Moonshine, man.
Oh, no moonshine, man, corn whiskey. C-H-O-G-N, corn, man, real corn, you know.
Yeah.
And I mean, I'll get in the groove. And this is what I would say, man, with that gal on my lap. I let her know that I wasn't no square, that I was here. In the evening, in the evening, when the sun go down. In the evening, baby, when the sun go down. Nighttime is the right time to be with the one you love. In the evening, when the sun go down, the sun rise in the east, and it sets down in the west. The sun rise in the east, baby, and it sets down in the west. That's a tough thing. Well, I love two women. Ain't it hard to tell which one you love the best? In the evening when the sun go down. Look out there, make you talk about it now. Well, I'll be doggone. Boy, you really going in the sun, man. Stay out that sun, though, if you're going back to Mississippi. That's bad. I believe I tried a little bit of that myself, man. Why the sun go sinking down with that, wouldn't it? I got to sing a little bit more of that out, man, because that's something.
I'ma warn you, I'ma warn you one more time. I'ma warn you one more time before you go. I'ma warn you, baby. I'ma warn you one time before you go. Well, well, if you stay out all night long, I don't want you no more in the evening when the sun goes down.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Les grands acteurs travaillent dans le silence. Les grands acteurs dans le silence pèsent chaque mot à l'intérieur d'eux. Tu n'en verras rien à l'œil nu, jamais tout est dedans. Tu respires, ça pèse. Ils font peser chaque mot dans la balance de leur souffle. Le souffle est une balance de haute précision qui pèse le poids des mots, sans commentaire jamais. Regarde, tu respires, ça pèse. Voilà, tu colles, tu montes, tu opposes, tu assembles, mais dans la respiration, toujours dans la respiration, à froid, à chaud, tout chien Terre-Neuve, tout grand acteur sait ça, la tête, non, le souffle, oui. Respirer avec sa tête, non, mais penser avec son souffle, oui.
Ça, c'est, j'ai voulu le placer là, Arthur Nozicial, parce que c'est dit dans l'art du théâtre, donc le premier monologue que vous interprétez au rond-point. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le deuxième monologue, le fameux De mes propres mains, où là, vous prenez votre souffle au début et puis vous y allez jusqu'au bout. Et au fond, c'est aussi un des grands thèmes de Pascal Rambert quand il parle de ses acteurs, c'est ça. Être dans le souffle et dans le silence intérieur pour arriver à porter cette parole.
Oui, c'est quelque chose d'assez paradoxal, en fait, dans l'écriture de Pascal. C'est le rapport à l'intime, en fait, parce que je trouve qu'il arrive à très bien élaborer une pensée qui naît de l'intime, qui naît vraiment du silence en soi, qui naît de nos déceptions, de nos doutes, de nos inquiétudes, de nos souffrances. Et en fait, c'est dans le silence de cette intimité que peut naître cette parole, et puis c'est le souffle qui la rendent à ce coup public. On en rend compte de manière brutale, peut-être dans le moment où elle s'élabore, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de temps, en fait, entre l'élaboration de la pensée et son énonciation. Elle naît de quelque chose qui est tellement urgent, en fait, qui est tellement nécessaire pour la personne qui le dit, que voilà, ça passe dans ce flot-là. Mais je pense, en vous parlant, en fait, je pense à Sœur, par exemple, hein, qu'on a vu récemment au Bouffe
avec
du Nord,
Marina,
je pense,
Hans, et
Marina
Bonnet,
et Audrey, oui. Et comment la pièce... Enfin, pour moi, c'est très emblématique de ce que fait Pascal, c'est-à-dire, il rendait compte comme ça, de manière brutale, de manière extrêmement développée, voire délitée, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtaient plus de parler, ces deux sœurs. Elles essayaient de rendre compte de ce gouffre abyssal qu'il y avait entre elles deux depuis tellement d'années, et que même les flots de paroles, les deux heures ininterrompues de paroles, n'arriveront jamais à combler cet espace qui s'est créé pendant tant d'années de malentendus et d'incompréhension. Et c'est ça qui est déchirant, en fait, c'est de se dire... Mais finalement, on est tous habités par la nécessité, à un moment, avec des êtres proches, chers, des frères, des sœurs, des parents, peut-être. On est tous habités par tout ce qui n'a pas été communiqué et tout ce qui va être tenté de l'être, mais toujours trop tard, en fait. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a nos silences, c'est-à-dire ce que la mélancolie qui est inhérente à nous tous, peut-être, de ce qu'on a pu rater dans nos vies, des gens qu'on a pu rater, des relations qu'on a pu rater, enfin voilà, plein de choses auxquelles on a pu passer à côté, et puis la nécessité de les exprimer, et puis comment on les exprimerait si on pouvait le faire. Mais pour rendre compte d'une telle béance, alors effectivement, il faut parfois beaucoup parler, comme s'il fallait épuiser la parole.
Mais d'ailleurs, le deuxième personnage que vous interprétez, donc après ce premier monologue, vous passez à celui de mes propres mains. D'ailleurs, sur la scène, pendant ces quelques minutes qui séparent les deux textes, on vous voit, vous densifiez, Arthur Nozicial. Autant vous respiriez avec le chien dans le premier, autant pour le deuxième, on vous voit rentrer complètement en vous-même, vous devenez minéral, et puis le texte sort comme Pascal Rambert veut qu'il sorte, c'est-à-dire avec ces fameux enjambements, quand une pensée arrive à son bout, au lieu de s'arrêter, vous enjambez, vous passez à la suivante, et les césures ne se font pas là où elles devraient se faire. On va écouter une petite scène, un petit extrait, avant d'en parler.
Je suis un chien. Je veux dire que je suis un homme pris, Un homme pris dans un corps de chien, je ne sais pas pourquoi je vais chez M. J'aurais dû rester avec mon ami Hans pour qu'en parlant il m'assomme tout à fait. Je revois les actions de la journée. Écrire une lettre à M, écraser une mouche, acheter les journaux du matin, mettre le tout à la poubelle, à Paris, du cœur de M par une laisse, accroché à mon collier d'or qui entoure mon cou de chien. À New York, je vois que M presse sur le bouton de l'enrouleur de la laisse pour que, traversant l'Atlantique comme une météorite, ma gueule d'animal amoureux vienne s'écraser sur le beau buste de M pour lui manger le cœur. Personne n'aurait l'idée de me faire ce cadeau, crevé, écrasé sous un arbre par la seule volonté d'un individu, comme disent les forces de l'ordre, d'un individu qui aurait soif de justice. J'imagine mon père me dit, sois comme tout le monde, nous nous foutons de ta singularité, de toute façon tu ne mourras pas. Je n'irai pas chez elle et pourtant je me vois à la fente de sa porte à gratter, prisonnier dans mon corps de chien, couiner comme un porc, vous couinez comme un porc quand vous ouvrez la bouche, dit la crémière. On ne comprend rien à ce que vous dites.
Arthur Nosiciel, en fait, il y a une assez grande logique dans la succession de ces deux textes. Vous venez de nous dire que souvent, on souffrait de ne pas avoir dit les bons mots au bon moment et d'être passé à côté de certaines personnes, de sa vie, de moments. Au fond, ce deuxième homme que vous interprétez, celui qui pète les plombs littéralement, qui est traversé par le bruit du monde, le bruit de la télé, le bruit de la radio, le bruit des disputes, le bruit des manifestations, des crimes, des souffrances. Au fond, on a l'impression que c'est un homme qui prend la parole pour la première fois de sa vie, qui a été dans l'absence de mots au bon moment avant et qui va mourir de ce trop-plein qui surgit tout à coup.
Oui, en tout cas, tant qu'il parle, il est debout. Tant qu'il parle, il est vivant. Il est retraversé par des flux, en fait, des flux d'images, d'expériences, de choses qui sont accumulées. C'est comme un peu les choses de la vie, hein. On voit dans la minute de l'accident, c'est comme si toute sa vie repassait. Et en fait, il y a ça. Il y a son père, il y a des secrets, il y a des secrets de famille, il y a une histoire d'amour, il y a ses amis.
Il y a son patron.
La drogue, son patron, le théâtre, il y a beaucoup de choses aussi. Et en fait, je crois que ce à quoi on assiste, je crois, parce que c'est très difficile pour moi d'avoir du recul par rapport à ce que les gens perçoivent. Je suis tellement en fait dedans que je peux pas avoir une microseconde de recul ou de distance, puisque sinon je sors de la route, quoi. Et donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui, dans la multiplicité des images, finit par raconter aussi une vie, en fait, finit par raconter un parcours, un trajet, et de quelqu'un qui peut-être dans un moment ultime, en tout cas, est submergé par par des réminiscences comme ça, qu'il tente, je pense, d'apprivoiser ou de calmer ou de dompter par la parole. Moi, j'ai l'impression que souvent, faire du théâtre, mais écrire ou mettre en scène ou jouer, c'est aussi ça. C'est parfois calmer la bête en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens parmi ceux qui font ces métiers qui tentent de dompter un monstre, en fait, à l'intérieur, et que mettre des mots sur les choses, ou en tout cas prendre les mots en charge ou les transformer en images, est une façon de dompter la bête, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose que... Après, je sais pas, moi, jusqu'où ça va chez ce garçon, s'il meurt ou pas. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis dit... Et c'est ce que je fais quand je commence. Je dis, parle, tant que tu parles, t'es là. À un moment, il le dit, je suis là face à vous vivant, ça prouve bien que, bon. Mais, jusqu'à quel point il va l'être, ça j'en sais rien, mais parce que la force qu'il faut pour produire ça est quand même une force de vie incroyable. C'est-à-dire que c'est pas le désespoir juste ou la dépression qui pourrait faire parler ou jouer comme ça. Donc il y a quelque chose aussi de la force de vie, peut-être que ça va l'aider d'arriver au bout de ça.
Mais d'ailleurs, on est là à parler de l'importance de la parole vraie, de la parole dite au bon moment, ou de la parole qui explose et qui produit des catastrophes, dans un pays qui est quand même en ce moment en pleine crise du langage, des mots. Il y a des trop-pleins, parfois un peu bizarres, qui sortent, et puis parfois il y a les tentatives de récupération de la parole par le chef de l'État. C'est un pays qui est en crise avec ses mots et son langage. Pour un homme de théâtre, c'est quand même une scène étrange qui se déroule là sous vos yeux.
C'est une scène étrange et un peu effrayante, en fait. Mais bizarrement, on oscille tout le temps entre une forme de désespoir ou de désillusion, en disant, mais ce qu'on fait ne sert vraiment à rien. Et puis toujours l'envie d'y croire, en se disant s'il y a quand même quelque chose dans cet art-là, l'art du théâtre, quelque chose de vraiment nécessaire. Et je pense que peut-être que de plus en plus, des gens auront envie d'être dans une salle où on peut se consacrer pendant un temps, plus ou moins long ou court, à du silence et à de l'écoute et à la résonance des mots dans ce silence qu'on va créer ensemble. Et alors bon, j'ai envie d'y croire parce que je dirige un théâtre, que je suis metteur en scène, un théâtre public, que je suis à Rennes, au TNB à Rennes, et qu'en ce moment j'ai un spectacle d'ailleurs qui est en tournée, La Dame aux Camélias, et on joue dans beaucoup d'autres théâtres. Il y a du monde, il y a des gens dans les salles, il y a beaucoup de public, et j'ai pas envie de dire qu'il y en a de plus en plus, parce que c'est absurde de le chiffrer de cette façon-là, mais nous jouons un spectacle de 3 heures qui est difficile, hein, comme La Dame aux Camélias, même si son titre renvoie à du connu, le spectacle dans sa forme ne renvoie pas du tout à du connu, je ne pense pas, avec des interprètes magnifiques, mais où une place importante est laissée à la langue et à la littérature, puisqu'une grande partie du spectacle est en voix off, enfin... Donc on veut faire confiance à l'écriture et on veut faire confiance à la capacité du spectateur à écouter et à ressentir. Et on joue dans des salles pleines et avec un silence absolument incroyable pendant ces 3 heures sans entracte. C'est un spectacle exigeant. Donc je veux pas complètement baisser la garde. Je me dis, il y a un travail qui est fait depuis 70 ans dans le cadre de la décentralisation, dans le cadre de tous ces centres dramatiques nationaux qu'on a la chance de diriger, qui sont dirigés par des artistes, par des metteurs en scène, et dont l'idée est d'amener quelque chose d'exigeant à un public qu'on souhaite le plus accessible possible. Et ben ce travail, quoi qu'on en dise, il marche. Il faut arrêter de penser que la démocratisation culturelle est un échec. C'est pas à nous juste de réduire la fracture sociale. On n'empêchera pas tout ce qui se passe dans ce pays et dans le monde. Mais peut-être que si on n'était pas là, ça serait pire. Et en tout cas, ce travail marche. Il y a des générations entières qui ont découvert le théâtre, qui... Ça peut être pas changer leur vie, mais parfois ça peut changer des choses dans leur vie. Ça peut mettre d'un seul coup l'angle sur quelque chose d'important pour eux, une façon de regarder les autres ou le monde d'une autre façon. Et en tout cas, il y a du monde dans ces théâtres. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des gens qui ont envie de partager de manière collective, parce que le théâtre est un lieu collectif où on n'est pas juste en tribu, où on n'est pas juste entre soi de gens qui pensent la même chose et qui veulent dire la même chose. Mais on essaye d'avoir des salles les plus mixtes en termes d'âge et d'origine sociale pour mettre les gens à l'écoute de quelque chose. Donc j'ai encore envie d'y croire, même si évidemment parfois on se dit, quand on entend ce qu'on entend, en fait on n'arrivera jamais à lutter contre la violence et la force de ce qui se dégage de certains médias, des réseaux sociaux, etc. Mais en même temps, je me dis, faut pas lâcher. Par exemple, ce spectacle, La Dame aux Camélias, au milieu de ce qui se passe, il a sa raison d'être vraiment. Et peut-être qu'on n'arrivera pas toujours à transformer les gens et à leur prouver qu'ils ont tort, mais peut-être qu'on peut encourager et conforter ceux qui, parfois, sont découragés. Là, déjà, ce serait formidable. Mais je pense que le théâtre a encore un rôle à jouer dans l'écoute, dans simplement créer à la fois du silence et une forme d'entendement.
Ben, je peux confirmer, les salles de théâtre sont pleines et en tout cas, quand on en sort, qu'on ait des critiques ou pas des critiques à faire sur le spectacle qu'on a vu, ça fait parler ensemble, on a écouté, on s'est enrichi et ça fait énormément de bien. Merci à vous, Arthur Nosiciel.
Merci.
Je rappelle que votre spectacle, La Dame aux Camélias, est en tournée en France à l'heure actuelle et que vous êtes sur la scène du Théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 mars avec ces deux textes de Pascal Rambert. Et je vous remercie d'être venu en parler avec nous ce soir.
Merci. Au revoir. À vous.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.